Mardi Politique, en partenariat avec Libération et l'AFP.
Valérie Gasse.
Bienvenue dans la seconde partie de Mardi Politique. Nous retrouvons notre invité Luc Carvounas, le sénateur-maire socialiste d'Alfortville. Toujours à mes côtés pour vous interroger, Luc Carvounas, Bernard Pellegrin de l'AFP et Laure Breton de Libération. Alors, Luc Carvounas, l'un des plus gros défis que va devoir relever Manuel Valls, c'est de relancer la croissance, faire reculer le chômage, enfin au moins essayer, grâce au pacte de responsabilité annoncé en janvier et qui vise à alléger les charges des entreprises pour les aider à gagner en compétitivité. Et dans ce débat autour du pacte, eh bien, Pierre Gattaz, le patron des patrons, le président du MEDEF, vient encore de relancer la proposition de création d'un SMIC intermédiaire. Alors un SMIC intermédiaire, ce serait un SMIC plus bas que le SMIC étant le salaire minimum, pour faciliter l'entrée sur le marché du travail des jeunes ou des chômeurs qui n'arrivent pas à se réinsérer. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée à ce moment du débat politique ?
Écoutez, moi, je n'avais pas ces informations-là. En tous les, moi, je pense que le SMIC est de toutes les manières un totem sur lequel on ne doit pas rogner. Et je pense qu'il faut que nous soyons justement vigilants là où, dans la pédagogie que j'évoquais tout à l'heure, nous n'essayons pas qu'au travers du pacte de responsabilité, ce soit en gros tout pour les entreprises. Ce n'est pas du tout l'enjeu qui est aujourd'hui celui du gouvernement de Manuel Valls. C'est diminuer le coût du travail, réduire la fiscalité sur les entreprises et faire aussi de la solidarité en relançant du pouvoir d'achat. Donc on a tous entendu les mesures qui vont toucher justement les gens salariés au SMIC dès le 1er janvier de l'année prochaine. Je n'imagine pas un instant que tout cela est mis en œuvre pour retrouver un sous-SMIC, si je comprends bien. Bon, alors
il y aurait trop de rigidité, il faudrait assouplir tout ça.
Non, il ne faudrait pas que les débats qui sont les nôtres pour plus et mieux de compétitivité, mais aussi de justice sociale, laissent croire que nous voudrions laisser une porte ouverte à d'autres enjeux. Et là aussi, le Premier ministre sera dans son rôle d'autorité de dire, je le pense, sans être dans le milieu de ces débats-là, de dire que ça ne peut pas se faire de cette manière-là.
Laure Breton.
Globalement, on entend, pour repartir au municipal, on entend aussi beaucoup depuis ces 15 derniers jours que la gauche, que François Hollande, que Jean-Marc Ayrault s'étaient enfermés dans un dialogue assez exclusif avec le patronat. On vous entend dire il ne faut pas que ce soit que de la compétitivité, il faut que ce soit de la justice sociale. Quels sont les... vous vivez cette surenchère patronale en permanence sur le gouvernement, comment y résister justement?
En ayant le souci du dialogue qui a commencé, je crois, dès la semaine dernière, et ça aussi c'est la marque de Manuel Valls, de pouvoir s'asseoir autour d'une table et de voir de quelle manière on peut réussir ce pacte de responsabilité, et qui aujourd'hui est doublé, si on a bien entendu le président de la République, d'un pacte de solidarité. Donc il faut réussir à trouver ces périmètres-là et les définir. Moi, j'ai beaucoup entendu nos concitoyens pendant la campagne des élections municipales. Vraiment, le thème qui revenait le plus au moment de cette campagne, c'était la problématique du pouvoir d'achat, des impôts. C'était même, chez tous les sondeurs, l'item principal dans une campagne municipale. Le premier sujet était les impôts. Voilà. Donc, il faut qu'on ait conscience de cela. C'était même Pierre Moscovici qui, à un moment, avait considéré qu'il y avait trop d'impôts. Bon. Aujourd'hui, nous sommes en train, pour les plus bas salaires, d'envoyer un message qui a été entendu pour essayer de relancer le pouvoir d'achat, notamment avec la diminution des coûts patronaux pour les SMIC, ceux qui sont salariés au SMIC, pour retrouver 500 euros de plus par an. Voilà, c'est un premier message. Il va falloir que l'on poursuive tout cela pour voir de quelle manière on peut accompagner ce pouvoir d'achat.
Bernard Pellegrin.
Dans 15 jours, 3 semaines, c'est le 1er mai.
C'est la fête du travail.
Il y a des manifestations. Seront-elles unitaires, le seront-elles pas, je ne sais pas. Mais vous ne craignez pas que dans ces manifestations s'exprime aussi un certain refus du pacte de compétitivité, du dialogue avec le patronat, qu'un certain nombre de gens, finalement, vous disent, depuis la rue, à partir du traditionnel défilé du 1er mai, attention, stop, vous allez trop loin.
Comme ce dimanche, quand même, cette grande marche contre l'austérité dont on a parlé tout à l'heure.
Tous les 1er mai sont, par principe, le moment de recevoir des messages. Que l'on soit un gouvernement de droite, un gouvernement de gauche, les syndicats profitent de ce moment-là aussi pour porter des sujets qui leur semblent importants. Mais il faut aussi dire à nos concitoyens qu'on ne relancera pas l'économie française en s'opposant aux entreprises. On ne créera pas des emplois uniquement avec des emplois aidés comme les emplois d'avenir dans nos collectivités territoriales. Il ne faut pas qu'on s'enferme dans une idéologie quasi dogmatique de dire finalement il y a le patronat, il y a les salariés, c'est un grand tout. Et ce que nous essayons aujourd'hui de reprendre comme chemin, c'est le chemin de ce dialogue et du consensus où chacun va devoir poser des actes, y compris les patrons. Il y aura une conférence sociale au mois de juin pour prendre un peu l'angle de la contrepartie des emplois à devoir créer chez les juniors, chez les seniors. Ce n'est pas le CICE, les 20 milliards avec les 10 milliards qu'on a ajoutés, en disant maintenant faites ce que vous voulez, comme certains ont envie de le laisser penser, et notamment Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas une politique d'austérité, c'est une politique de relance. Et c'est une politique qui doit se faire avec sur le plan européen, mais qui doit se faire aussi avec les partenaires sociaux, et en même temps, en entendant le message des Françaises et des Français qui ont envie de retrouver ce fameux pouvoir d'achat qu'ils considèrent avoir trop perdu.
Justement, vous dites pas de politique d'austérité, mais l'un des défis pour Manuel Valls, ça va être de réussir à faire passer ce pacte tout en faisant les fameux 50 milliards d'économies en 3 ans annoncés par le président de la République, dont on a quand même un petit peu du mal à cerner le périmètre, tout au moins pour une dizaine de milliards sur lesquels on ne sait pas bien sur quelles dépenses sociales, quelles prestations on va devoir gratter.
Je me mets toujours à la place de vos auditeurs, là pour le coup, quand ils entendent ces masses, 50 milliards au regard...
Ça, c'est pas nous qui l'avons
oui,
dit.
Oui, non, oui. Parce que ce sont des sommes astronomiques et en même temps, il faut les placer au regard du fonctionnement de notre pays. Ces 50 milliards sont 1180 milliards de dépenses annuelles. Donc, voyez ce que cela veut dire. Ensuite, par rapport au fameux 3% du PIB, on se donne jusqu'en 2015, donc on a à peu près un an et demi.
Pour un peu sous l'influence et la demande.
Un peu contraint, on va dire.
La contrainte de Bruxelles.
Malgré les dénégations
Berlin,
du ministre des
Moi,
Finances.
Moi, j'ai entendu le ministre des Finances, j'ai entendu le Premier ministre dans les questions d'actualité, donc je ne vais pas revenir sur ce
Mais vous l'avez aussi entendu lors de la déclaration de politique générale, où il semblait dire qu'il fallait un peu réorienter l'Europe, faire entendre certains messages à Bruxelles qui, visiblement, n'ont pas été entendus.
Mais déjà, nous avons diminué nos dépenses publiques. On était à plus de 5% du PIB. Aujourd'hui, on est à 4,3%. Donc, il y a déjà eu un travail structurel de mis en œuvre depuis 22 mois. On n'a pas perdu le temps, là où certains disent le quinquennat démarre maintenant. Non, ce n'est pas vrai. On n'a pas perdu de temps. Aujourd'hui, il ne faut pas non plus dresser ces 3% comme une espèce d'épouvantail dogmatique. Il faut y aller, c'est une nécessité. Vous avez raison, il y a ces 50 milliards qui se distinguent avec 17 milliards sur les dépenses de l'État, 21 milliards pour faire vite sur la sécurité sociale et une dizaine de milliards sur les collectivités territoriales. Et je suis maire, donc je serai le premier concerné à regarder où ces 10 milliards sont imputés. Mais je retrouve aussi la nécessité, pour le coup, c'est ce qu'avait dit dans le discours de politique générale le Premier ministre, de devoir repenser l'organisation politique et administrative de notre pays, le fameux millefeuille, pour faire des économies. Les économies, elles se situent partout.
Ça, ce sera à plus long terme.
Ça, c'est un très long terme.
C'est pas des économies, ça sera pas les 50 milliards.
Non, la métropole de Paris que nous avons votée au Parlement et qui
on a l'impression
naîtra
quand même
le 1er janvier 2016. Mais non, le 1er janvier 2016, le millefeuille commencera déjà à diminuer. Mais je comprends bien que c'est un débat un peu d'initié. Mais en tous les cas, il ne faut pas avoir peur de ce chiffre. Voilà, si j'ai un message à faire passer, c'est que nous devons aller vers cette diminution des dépenses
publiques.
Mais
les gens auraient moins peur si on leur disait sur quoi on va aller, sur quelles dépenses on va opérer les réductions. Parce que c'est ça aussi, c'est ce flou qui entretient.
Mais sur la sécurité sociale, par exemple, on a fait un travail sur la médecine de santé, la médecine de ville. On a pu négocier avec les grands groupes pharmaceutiques, on est allé sur les médicaments génériques, on a fait près de 3 milliards d'économies. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, on n'a pas fait ce travail-là. Donc, par exemple, on pourrait aussi économiser 5 milliards. Donc, il ne faut pas laisser entendre que nous allons taper dans le portefeuille ou dans la manière de vivre de nos concitoyens. Ça, ce serait un déni. Mais, pour le coup, il faut retrouver la pédagogie pour expliquer les choses. Il y a le Haut Conseil des dépenses publiques à installer le président de la République qui va se réunir dans les jours prochains, va commencer à mettre en place la réponse à votre question où se trouvent ces 50 milliards d'ici 2015. Et puis, pardon, il y a aussi le Parlement. Il y a aussi le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat qui va jouer son rôle dès le mois de juin dans le collectif budgétaire qui va avoir lieu. Et puis après, on rentrera dans le dur avec le prochain projet de loi de finances 2015. Mais le Parlement a son mot à dire. Et je vais faire une digression, c'est que dans notre pays, il y a trois leviers qui représentent l'État. C'est le président, c'est le gouvernement et c'est le Parlement. Et trop longtemps, en tous les cas, depuis le début de ce quinquennat, par certains comportements un petit peu indépendants, on a laissé entendre aux Françaises et aux Français que le Parlement, certains députés, certains sénateurs, n'étaient pas l'État. Nous représentons tous l'État. Donc nous avons tous la responsabilité de porter ce pourquoi nous avons été élus avec le président de la République.
C'est un appel à rentrer dans le rang de certains de vos
non, c'est un appel à avoir non, c'est un appel à avoir le débat dans les groupes parlementaires, parce que c'est ça la démocratie interne. Mais une fois qu'une décision est prise, on a le droit d'être battu. Moi, sur mon cumul des mandats, j'étais pas d'accord. Mais j'ai été battu, et pourtant je vais être contraint par la loi. On peut avoir tous les débats en démocratie, mais une fois que le groupe a tranché, il faut aussi accepter sa décision, sans quoi on n'est plus membre du groupe.
Un pacte de solidarité.
Oui.
Alors revenons au millefeuille, le fameux millefeuille. Vous êtes favorable à la suppression des départements à l'horizon 2021 ?
Mais je l'ai écrit dans une tribune, voilà plus d'un an, je suis... Pour l'Île-de-France, hein. Moi je suis francilien, je suis élu, comme on dit, de zone dense. J'étais de ceux qui ont toujours pensé que les départements Petite Couronne devaient avoir vocation à fusionner.
Non, mais répondez à la question au niveau où l'a placé le Premier ministre dans son discours de politique générale, c'est-à-dire la suppression du département tel qu'il a été conçu par la Révolution française.
C'est parce qu'il
n'est plus adapté. Vous partagez ce point
de
vue ?
C'est un cap qu'il a fixé. En tous les cas, je le partage pour l'Île-de-France, donc je peux le partager pour la France entière. Et j'ai aussi entendu que le Premier ministre a parlé de dialogue, que les choses ne se feront pas à la hussarde, comme a pu le prétendre le président de l'Association des départements de France.
D'ici 2021, ça ne se fera pas à la hussarde, forcément. Mais je veux dire, est-ce que fondamentalement, la France doit passer ce cap pour pouvoir se moderniser, pour rentrer dans le logiciel du 21e siècle ?
Je le pense. Je pense que le premier guichet républicain qui doit... survivre, parce que quel que soit le territoire, il est le premier guichet pour tous nos concitoyens, c'est la commune. Ensuite, il faut que nous repensions notre intercommunalité au travers des métropoles et que nous repensions, quand on parle de compétitivité sur le plan européen, le maillage régional. Trop de régions, trop de départements, trop de petites communes, tout cela correspond à une organisation politique et administrative de notre pays qui a montré que ça pouvait marcher. Mais si on doit rentrer dans notre siècle, il faut se réformer aussi sur ce sujet-là.
Laure Breton.
Justement, le Sénat, c'est la chambre de représentation des collectivités locales. Depuis deux ans, les deux textes sur la décentralisation ont passé des mauvais quarts d'heure au Sénat. Quelle assurance, vous, en tant que sénateur, vous avez que le prochain texte qui arrive sera bien pris par vos camarades et pourra être travaillé de façon sereine, justement, puisqu'on va vers la suppression du département, vers
le prochain
plus
texte,
d'intercommunalités.
Le prochain texte
les métropoles, c'était pas un succès flamboyant.
Mais oui, mais
la
faute à qui ? Vous parlez du texte sur la métropole, mais le texte sur la métropole a été blackboulé au Sénat par l'association de la carpe et du lapin entre la droite et le Parti communiste. On est reparti avec une feuille blanche à cause de cette association et ce vote. Donc l'Assemblée nationale, après, en concertation avec le groupe socialiste du Sénat, j'en ai fait partie, a su construire en 6 semaines ce qu'on n'avait pas su construire en 2 ans. Bon. Après, le prochain texte qui arrive au Sénat va porter sur les régions et nous aurons les débats. Marie-Lise Le Branchu a été reconduite dans ses fonctions. Bien sûr, ce sont des débats compliqués. Bien sûr, dès qu'on touche à des histoires de territoire, à des élus, on a l'impression de se retrouver face à des inerties. Mais je suis aussi confiant quand j'entends ce matin, j'en ai parlé avec lui, quand je vois François Patriat qui lance le rapprochement entre la Franche-Comté et la Bourgogne. Il y a des choses qui vont se faire sur la base du volontariat. Et puis, pour les plus récalcitrants, la loi leur permettra d'avancer s'ils ne le souhaitent pas.
Pour revenir juste un instant sur l'objectif de réduction des déficits à 3%, vous êtes favorable au maintien de cet objectif et à l'aboutissement de cet objectif ?
La question,
quelles que soient les conséquences.
Mais je n'ai d'abord les conséquences, elles doivent être encore une fois, je l'ai dit, sans être pénalisantes pour nos concitoyens. En tous les cas, ça c'est le rôle du politique d'accompagner cela et de l'expliquer. Ensuite, je n'ai pas à être favorable ou défavorable, c'est une nécessité. Soit on relance notre économie en diminuant nos dépenses publiques et donc il y a un cap. Voilà, c'est celui des 3%. Soit, comme certains de mes amis de l'aile gauche, on reste dans une philosophie du XXe siècle en pensant que tout est possible, que l'État-providence peut se substituer à tout et qu'on peut continuer à tout dépenser. Et ça, ce n'est pas dire la vérité. Et il faut prendre la part de ce que disent mes amis, l'écouter, discuter avec eux, mais ce n'est pas faire montre de responsabilité. Et notre pays a besoin d'être remis sur les rails de son économie, parce que c'est l'emploi qui est derrière. Et le seul enjeu de ce quinquennat, c'est le retour à l'emploi pour un grand nombre de nos concitoyens qui attendent.
Alors, on va passer à la séquence européenne, à moins que Bernard ait eu envie de poser une autre question. Je sens qu'il en avait envie.
Oui, je voulais vous poser une question sur le productivisme. Souvent, on dit du Parti Socialiste que c'est un parti productiviste, très attaché aux valeurs industrielles, même s'il n'y a plus d'industrie en France, mais à cette idée qu'il faut faire de la croissance, qu'il faut toujours et toujours produire plus. Est-ce que dans ce logiciel que vous avez suggéré tout à l'heure, et évidemment lié aux questions environnementales, il faudrait pas mettre aussi un petit peu le holà sur cette manière de voir les choses, c'est-à-dire reconnaître qu'il faut peut-être produire moins, produire en tenant compte des ressources, produire en étant plus attentif à la durabilité des choses. Alors, c'est un discours qu'on entend peu dans la bouche des élus.
Si vous me lancez sur l'industrie de notre pays,
rapidement,
je vais vous parler d'une industrie dont personne ne parle, notamment dans les rangs socialistes. C'est l'industrie du tourisme, qui est la première industrie française. 7% du PIB, 2 millions d'emplois, dont 1 million directs. Produits indélocalisables, une industrie plus importante que l'industrie automobile, etc. Eh bien là, on a, un sujet sur lequel on devrait un peu plus s'arrêter et voir de quelle manière, comme le fait Barack Obama aux États-Unis, on peut relancer des points de croissance avec un sujet qui nous tend les bras.
Alors un autre sujet important, c'est les élections européennes. Ce sera le premier test électoral pour Manuel Valls à Matignon. Et il était à Berlin hier, Manuel Valls, et il en a parlé, je vous propose de l'écouter.
Les peuples veulent que l'Europe les protège. Les Européens veulent une Europe qui demeure un modèle social, au sein duquel l'État-providence joue son rôle. Ils n'acceptent pas que les normes sociales et environnementales qui les protègent soient menacées. C'est comme cela que nous lutterons contre les nationalismes, les populismes. C'est ainsi comme cela que nous lutterons aussi contre l'abstention.
Alors ça y est, il est rentré dans la campagne des européennes, Manuel Valls.
Cela ne vous a pas échappé qu'il faisait partie de ces ministres qui étaient déjà dans la campagne des municipales. Il a, comme on le dit communément, mouillé la chemise. Il n'était pas tout seul. Il y avait Najat Vallaud-Belkacem, Christiane Taubira, qui ont été aussi des ministres qui ont fait pas mal de campagnes de terrain. Aujourd'hui, le Premier ministre sera engagé dans la campagne des européennes. Il participera peut-être à un ou deux meetings. Mais en même temps, pour être dans un discours de vérité, les élections européennes n'ont jamais été bonnes pour le Parti Socialiste. Après, la claque...
Il risque d'être très mauvaise, là.
Nous avons reçu une véritable claque le 30 mars dernier. On me dit généralement que le vote des fouloirs doit avoir lieu aux élections européennes. J'ai envie de dire aux Français et aux Français qui nous entendent, voilà, on a compris le message. Quand vous irez voter pour les élections européennes, votez pour une Europe sociale, de justice, une Europe pour un SMIC européen,
pour un président de la Commission européenne,
pour Martin Schulz qui pourrait être le premier président. Voilà, c'est
Mais
de penser à cela.
Vous trouvez pas que ces préoccupations sont un tout petit peu secondaires quand en Europe, sur le continent européen, pas dans l'Union européenne, mais sur le continent européen, il y a le feu en Ukraine, il y a le feu parce qu'il y a presque une guerre civile qui est en train de s'installer et que les grandes puissances européennes comme la France, comme l'Allemagne, comme la Grande-Bretagne doivent se mobiliser.
Très rapidement,
je suis complètement d'accord avec vous. Sur le plan de la diplomatie française, Laurent Fabius s'active depuis un moment maintenant. Il n'est pas seul. Moi, je suis membre de la commission Affaires étrangères Défense. Nous avons déjà eu l'occasion de parler au Sénat de ce sujet. Mais il faut que nous fassions attention en géopolitique. On sait comment cela commence. On ne sait jamais comment cela finit. Et je pense que l'Union européenne doit montrer sa détermination vis-à-vis même de Vladimir Poutine.
Eh bien voilà, c'est la fin de Mardi Politique. Merci Luc Carvounas. Merci d'être venu. Merci Bernard Pellegrin. Merci Laure Breton. Merci Audrey Yatoni qui prépare cette émission. Mathias Golchani qui la réalise. Et à la semaine prochaine.